Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 924. Aujourd'hui, en ce samedi 16 novembre, on vient de démarrer avec le disque coup de cœur du mois, toujours l'album Jericho Road, Eric Bibb, chez Study Plain, également chez Dixie Frog Records pour la distribution européenne. Vous étiez peut-être à l'écoute la semaine dernière, il y avait l'émission spéciale Tremplin Blues sur scène pendant 3 heures, des interviews et du direct et du live bien sûr. Et puis on va continuer un petit peu aujourd'hui en deuxième heure avec des interviews phoneurs, à savoir Nicolas Nico Backton, Yann Malek, Mark Lloyd et Saligo Élégant, Yann Malek de Canton Bellies, Nico Backton des Wizards, Soisig le Breton des Lazy Buddies, et puis j'espère, je parlais ici à le joindre tout à l'heure, Charles Pazzi. Voilà quelques-uns des artistes qui ont été révélés lors des différentes éditions du Tremplin Blues sur scène, pour laquelle il y a encore eu du monde qui s'est pressé cette année. Tout à l'heure, on aura la rubrique de Laurent Choubrac pour parler de JJ Cale à travers une bonne sélection de sa discographie. JJ Cale qui nous a quitté cet été, vous le savez. Et puis, juste avant, dans la toute première demi-heure de Sweet Home Chicago, je reçois donc Alex Massmedia pour sa première partie de Nina Attal qui aura lieu vendredi prochain, le 22 novembre, à Bretteville l'Orgueilleuse. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Nina Attal qui était l'une des invitées d'ailleurs de l'émission de la semaine dernière. On poursuit avec les gagnants, et oui, ceux qui ont remporté le Tremplin Blues sur scène 2013. Il s'agit d'un groupe picard qui s'appelle The Swinging Dice, dont je vous propose tout de suite un extrait de la discographie avec Hey Bartender. On se retrouve juste après avec Alex Massmedia dans la radio.
When balling the whole night, started drinking and got real tight. I blew with you know my friend. I felt so good I had to blow again. I said hey bartender, hey man, look here. On the end, I said, baby, can we be friends? You're looking sweet as you can be. Come on down and drink with me. I say, hey, bartender, hey, man.
I looked at the clock and it was almost four. I said, hey, bartender, hey, man, look here. Pour one, pour two, pour three, pour a glass of beer.
Bartender, hey, bartender.
Bartender, le groupe Swinging Dice qui vient de Picardie, qui figure dans le double CD Blues sur scène. Le festival Blues sur scène, c'est en ce moment et c'est jusqu'au 23 novembre, comme chaque année depuis 1999, au mois de novembre, à Mantes-la-Jolie, dans tout le Mantois. On vous donne rendez-vous pour plein de belles dates. Et à savoir que ce double album, donc qui comprend une bonne partie de la discographie des artistes du festival et également du tremplin, ce disque est à gagner pour 5 exemplaires sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Je suis avec mes invités, Alex Massmedia. Alex, bonjour.
Salut.
Ça va bien ?
Ça va, très bien.
Je suis également avec Emmanuel Dormois.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel. Et Marina Esri qui est là.
Bonjour.
Je ne sais plus si on dit Esri ou
Esri. Si, Esri.
Ça va, c'est bien. Alex, tu reviens parce qu'il y a une actu, on t'avait déjà reçu, je crois, par... Une fois ou deux fois dans l'émission.
Une fois.
Ouais. Bah, tu vois, on revient, le retour, parce que il n'y a pas eu que l'an dernier la première partie de Lucky Peterson. Il n'y a pas eu que, par exemple, au mois d'octobre dernier, la première partie de Tommy Castro. Mais il y a toujours une actualité scénique pour toi, Alex, depuis la sortie de ce mini CD.
Soul Rain.
Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la toute dernière interview qu'on a faite ensemble?
Bah écoute, quelques dates, donc Tommy Castro, La Traverse, voilà, on a remporté le tremplin. Et puis, bon voilà, la prochaine date, on a joué aussi un petit peu à Paris.
C'est ce que j'ai cru voir passer.
Ouais. Au Sunset Sunside. Mm-hmm. Et puis, on va continuer, on va réitérer avec le studio à Bradville.
Alors Emmanuel, donc Alex, c'est un artiste en développement, on peut dire ça?
Oui, hein, complètement.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Marina.
D'ailleurs, j'allais dire qu'il a pas fait que les concerts non plus. Je crois qu'il a aussi beaucoup travaillé.
Oui, c'est vrai. Il y a eu une résidence. Oui. À la loco.
C'est important les résidences, c'est vrai qu'on en parle très souvent dans les interviews de musiciens. Mmh. Quand on a la chance de décrocher une résidence, ben voilà, c'est quand même l'occasion de peaufiner son répertoire, de partir travailler avec du bon matériel, avec des bonnes conditions.
Dans de bonnes conditions, ouais, tout à fait.
Donc là, c'était dans la région.
Bah c'était génial. Emmanuel nous soutient depuis le début.
Donc, c'était à la loco là.
Ouais. Et, vraiment de super conditions. On a bossé avec un coach scénique. Je sais pas si on dit une, c'était une femme, donc Sonia Savary, voilà, exceptionnelle.
Coach scénique, c'est-à-dire c'est éviter les mauvais gestes, éviter ou au contraire pouvoir se mettre mieux en valeur au niveau de ses gestes sur scène,
c'était sur une journée, donc on ne pouvait pas tout bosser, mais on a travaillé surtout, on s'est concentré sur l'artiste, et puis on a bossé surtout l'interprétation, et puis... la confiance en soi et le gérer l'espace, en fait.
Gérer l'espace scénique, parce que c'est vrai que d'une scène à l'autre, on a soit 15 mètres carrés, ouais, soit 150, et puis ça ne se gère pas de la même façon.
C'est clair.
La disposition des musiciens, bien sûr, différente à chaque fois. C'est quelque chose d'important, en dehors du fait de faire de la bonne musique, comme c'est le cas, de bien se comporter sur scène, pour toi.
De bien se comporter sur scène, de bien se comporter en résidence, de bien se comporter dans la vie de tous les jours, en fait, déjà. Et voilà, je pense que moi, je monte sur scène... Et l'univers que je propose, j'essaie d'appliquer les valeurs que j'ai dans la vie, dans ma musique, et ce que j'apprends de chouette dans la musique, vice-versa, dans ma vie. On ne peut pas monter sur scène et prôner des valeurs, des valeurs, entre guillemets, humanistes ou autres, et se comporter un peu comme un couillon, quoi.
Honnête. On ne citera pas forcément de nom.
Non, on citera pas de nom.
Mais on en connaît tous.
Mais c'est vrai que voilà, j'ai jamais été comme ça. Mais depuis l'arrivée du manager, depuis l'arrivée de Marina sur le projet, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. C'était pas notre première résidence, bien sûr. Et on sort de résidence, on range. On sort de loge après un concert, on range, on respecte tous les travailleurs du milieu musical, quoi. Ouais, du catering.
Il ne s'agit pas seulement d'écrire de belles paroles, non, mais il faut aussi les appliquer au quotidien. C'est ça le message.
Voilà.
Ouais. Et ce n'est pas forcément un gros effort pour toi, je veux dire.
Non, bien sûr, mais on apprend certaines choses quand même.
Le respect du travail de l'autre, déjà, peut-être.
Voilà, mais je ne me comporte pas comme un sagouin, je suis quelqu'un de très respectueux. C'est pas ça, mais c'est.
On n'en a jamais dit.
Mais il y a des petites choses. Auquel il faut faire attention, des fois on peut passer à côté d'un petit détail Et c'est le détail voilà, sur lequel il fallait pas.
On n'est jamais à l'abri de froisser quelqu'un, même sans vous.
Voilà, exactement.
Marina, c'est. Oui, pardon, Emmanuel.
Je crois que c'est important aussi pour le public, hein, le travail sur scène, parce que je crois qu'effectivement, le musicien, il vient sur scène, il joue pas sa musique pour lui tout seul. Et puis je pense qu'effectivement, travailler, effectivement, ce qu'il y a vraiment aussi à faire passer de soi, indépendamment à travers sa musique, je pense que ça prend aussi du temps de justement de se trouver dans cet espace-là et comment être aussi en relation et en lien avec le public quand on est sur scène, quoi.
J'ai une question à te poser par rapport, parce qu'on parlait tout à l'heure du tremplin blues sur scène à Mantes-la-Jolie, et également le tremplin de la Traverse, dont la prochaine édition aura lieu le 1er décembre. J'ai une question à te poser par rapport à ce dernier tremplin que tu as pu remporter. Ta réaction au départ, c'était...
Moi, j'ai fondu en larmes. Hein. Je veux dire, j'ai clairement fondu en larmes. C'était un gros moment d'émotion.
Ouais.
Ça a été un partage incroyable avec le public. C'est vrai qu'on a été choisi à l'unanimité, quasi. Donc ça fait un peu bizarre. Et non, vraiment, je me suis sorti de concert, je me suis effondré et j'ai pleuré dans les bras de personnes que je ne connaissais absolument pas.
Et après, on t'a vu Hilar dans le hall.
J'ai retrouvé pour le coup, lors du concert à Tommy Castro, le public, c'est surtout ce qu'il a retenu.
Ouais.
Et ils ont retenu de moi. Enfin, j'ai entendu dire que j'étais quelqu'un qui avait vraiment, voilà, capacité à donner.
Et à exprimer tes émotions.
Voilà. Et non, c'était vraiment chouette.
Alex, on va écouter un extrait de ce disque, Soul Rain, et puis on se retrouve juste après pour la suite de l'interview dans Sweet Home Chicago. Extrait de Soul Rain, le CD d'Alex Massmedia, sorti il y a quelques mois, on va dire,
ouais.
Alex. Il n'y a pas encore de suivant hein, pour ce disque-là, mais on y travaille, j'ai l'impression.
Ouais, on y travaille. On va compte faire l'album. On va prendre notre temps sur toute l'année.
Donc
2014.
Un gros album de 12-13 titres avec, qui comprendra également cela.
Et... voilà, et puis avec une proposition artistique, on va dire, plus étoffée, plus...
Qui irait dans quelle direction, dans quel style alors
blues, ouais. De toute façon. Et toujours le...
Soul aussi.
Ouais, voilà, avec quelques teintes, mais voilà, bien blues, bien blues.
Blues, mais également, on en avait parlé lors de la première interview, pas mal de réminiscences d'un certain Kezia Jones. Ouais. Ça fait partie de tes artistes de chevet, je crois.
Ouais, références importantes. Et puis Tracy Chapman. Voilà, mais en tout cas, on va faire quelque chose de forcément très homogène, très blues, très blues. Et voilà, et je pense que ça ira, quoi.
Pour 2014 ?
Pour 2014, mais...
On va préparer pour 2014. Et on verra ce qui se passe pour la sortie, si c'est fin 2014 ou tout début 2015.
Dans tous les cas, il est attendu, hein, ça c'est clair.
J'ai cru comprendre que le public, par exemple, à la traverse pour la première partie de Tommy Castro était plutôt demandeur. Parce qu'ils sont restés peut-être un petit peu sur leur fin, je sais pas.
Hein,
c'est 6 titres, mais voilà.
Oui, c'est sûr. Après, on a fait 1h30 de session d'autographe, parce que c'est impressionnant. Et pendant 1h30, le public est en train de demander avec insistance, effectivement. Donc c'est chouette, ça fait plaisir. Donc on veut pas se louper, donc on va prendre notre temps.
on va parler de la prochaine soirée où on pourra t'applaudir, Alex Massmedia, dans les studios du 666, et on est toujours bien sûr dans Sweet Home Chicago, avec également Marina Esri, évidemment, et Emmanuel Dormois. Emmanuel, on peut parler de cette soirée parce que elle a pas lieu à la Loco que tu évoquais tout à l'heure, mais dans un autre endroit pas très loin de Caen, à Bretteville-l'Orgueilleuse.
Oui, une nouvelle salle qui est sortie de terre au printemps dernier. Donc c'est vraiment là, je crois que c'est même le premier concert. Hein. On a reçu Axel Bauer pour l'inauguration. Mais là, c'est vraiment la première soirée. Donc là, on voulait faire un peu une scène partagée, surtout en fait, parce que Alex va vraiment être. C'est vraiment un plateau partagé.
Donc c'est pas une première partie, une deuxième partie.
C'est vraiment deux sets, hein, en fait, deux concerts, vraiment une soirée. Donc avec Alex en premier et Nina Attal juste après. Et l'idée, bon, c'est vrai que. Voilà, on aime bien Alex, on aime sa musique et qu'on l'accompagne un peu comme on le disait tout à l'heure. Donc d'ailleurs il viendra travailler un peu au studio aussi quelques jours. Et là l'idée c'était d'avoir effectivement deux beaux artistes jeunes et puis aussi qui sont beaucoup dans l'écriture et auteurs-compositeurs. Voilà, donc un petit peu le fil rouge, indépendamment de l'univers qui peut évidemment qui résonne entre les deux. C'était un petit peu l'esprit de la soirée.
Alors c'est vrai, soul, blues, funk, hein, c'est un petit peu le fil rouge également au niveau des styles entre Nina Attal et Alex Massmedia, des univers on va dire un peu différents mais quand même qui se rejoignent sur un certain nombre d'influences, j'imagine. Tu l'as dit, des compositions, que ce soit du côté d'Alex, du côté de Nina. Nina Attal qui était dans l'émission la semaine dernière, qui nous a fait un petit live avec son compagnon Philippe Devin à la deuxième guitare, qui sera là accompagné de tout son orchestre, j'imagine, avec
ses musiciens,
Julien Audigier à la batterie notamment. Qu'il est autre que le batteur de Gérald de Palmas, je crois bien savoir. Il y aura
bien renseigné.
Et puis de ton côté, Alex, tout en borne également, avec musicien complicité.
Oui, avec Antoine Guimet à la basse, Joanne Barrère à la batterie et Benjamin Bacon à la guitare. Donc on propose toujours une formule à quatre, quatre musiciens sur scène. Et on est vraiment très content parce que Nina Attal, c'est une artiste que j'ai en référence aussi. Et que je respecte énormément.
Nina Attal, une artiste en devenir, mais c'est vrai qu'elle commence déjà à avoir une bonne expérience.
Et puis dans ce qu'elle propose, dans sa qualité vocale et son interprétation, et elle est explosive déjà. Et donc pour le petit bout de femme qu'elle est, c'est vrai que moi je l'ai vue une fois. On est allé voir un de ses concerts. À Paris, à la salle du Plan. Oui. Et c'est vrai qu'elle était. J'aime bien parce que, par exemple, quand elle va voir un concert, là, pour le coup, elle était dans le public, il y avait une première partie et elle était dans le public, quoi. Ça, je trouve ça chouette déjà. Et on passe à côté sans y faire gaffe parce que c'est un petit bout de femme, toute mimi, quoi. Puis quand elle monte sur scène, là, c'est la grande dame et c'est autre chose. Donc, il y a vraiment un vrai charisme.
C'était au Plan, Henri Sorangis, je crois. Voilà. Elle était en deuxième partie d'un autre
film. C'était un plateau avec Maltin Milk.
Ah oui, c'était avec Maltin Milk.
Et Maltin Milk a ouvert la soirée et Nina l'a clôturée.
Merci Marina.
Oui, oui, voilà. Heureusement qu'il y
avait quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est, en plus, c'est une artiste, je trouve qu'il y a des très très beaux mélanges, justement. Mmh. Quand on parlait d'influence tout à l'heure, et je trouve qu'elle elle sillonne quand même dans pas mal d'univers, et qu'elle en fait quelque chose, je trouve vraiment de très très chouette. Et d'ailleurs, je trouve que son album, son dernier album, là, enfin, peut-être le premier intégral, je crois, au début c'était l'EP, je trouve qu'il n'y a pas 5 minutes, où on a envie d'éteindre, quoi.
Bon, ça, ça gros, ça balance.
Voilà. Quelques précisions, Emmanuel, pour terminer avec cette soirée, donc vendredi 22 novembre, c'est à partir de 20h, c'est tôt. Hein.
Oui, c'est un petit peu tôt, mais enfin bon, on voulait leur laisser le temps de jouer aussi, donc voilà, on s'est dit 20h, bon après, on sait bien, ça va peut-être démarrer un petit peu en retard. Voilà. Donc,
double plateau, ça veut dire 2 fois 1h30, grosso modo quoi, ou...
bah, disons qu'on est sur 1h, 1h15, et puis après, voilà, si ça déborde un petit peu en deuxième partie, bon, voilà.
Très bien. Et donc, tous les détails, comment faire pour venir. Je suis un spectateur potentiel, je suis un auditeur de Sweet Home Chicago, je voudrais aller à ce concert. C'est à quel endroit?
Alors, c'est en plein centre de Bretteville l'Orgueilleuse, donc c'est vraiment tout près de Caen. Hein. Ça touche, on prend la direction de Bayeux, ouais. Voilà, on dépasse Cora, puis à un moment donné, on tourne à droite et on arrive à Bretteville l'Orgueilleuse. La salle est indiquée, elle est vraiment en plein centre-ville, dans la rue principale. Donc, on la voit bien. Et puis, sinon, les places, on peut encore les acheter sur Ticketnet, voilà. Et sinon, au dernier moment, bien évidemment.
Voilà, donc plein tarif 18€, tarif réduit 14€, et moins de 12 ans, 7€. Voilà, vous saurez tout si vous allez également sur le site de Le Studio, c'est ça, hein?
Oui.
C'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, oui. Il y a un Facebook aussi.
Il y a un Facebook, très bien. Voilà. Il y a une saison qui va suivre avec d'autres choses un petit peu différentes.
Un petit peu différentes.
On peut évoquer ça en
très très vite. Toujours voilà, avec cette idée d'écriture et d'auteur-compositeur. Donc on accueillera dans un autre style complet Florent Marché avec son prochain album. On accueillera Jules, qui est dans une variété rock un peu alternative, qui est aussi quelqu'un qui sur scène est complètement incroyable, même presque théâtral d'ailleurs, musicien théâtral. Et puis des lectures et aussi des spectacles plus jeune public. Et puis un projet très très beau qu'on aime beaucoup, Winston McAnuff et Fixie, voilà, qui viendra au mois d'avril. Parce que là, on est sur des écritures, parce que c'est l'idée de mélange. Voilà, là, je trouve que la rencontre entre les deux univers est absolument parfaitement réussie.
Pendant que je te tiens, Emmanuel, oui. Tu t'occupes toujours de la programmation de la Loco à Mésidon.
Tout à fait.
Et tu as peut-être des choses à nous annoncer dans la musique qui nous intéresse ici, dans Sweet Home Chicago.
Déjà, on va retrouver Alex, je suis désolée.
Encore.
Donc en première partie de China Moses, voilà, qui est une belle voix. Donc ça, c'est au mois d'avril. Le 19 avril.
La fille de Didi Bridgewater.
Voilà. Et puis la Loco continue aussi sa vie. Hein. On a du théâtre, les prochains concerts. Je crois qu'on a Maxime Le Forestier aussi, avec son dernier album.
Ouais, j'ai vu passer Graham Allwright aussi.
Graham Allwright, ouais. Tout à fait. Là, on vient d'avoir Jules et Jeanne Plante. Jeanne Plante est une artiste de la région. Voilà. Et puis, donc, la Loco vit maintenant. Vit bien. Je pense que le public commence à prendre le chemin de la salle.
La Loco à Mésidon, voilà, c'est entre Caen et Lisieux. Hein, et puis, Bretteville l'Orgueilleuse, dont on parlait pour la soirée de vendredi prochain, vendredi 22 novembre. Bretteville l'Orgueilleuse, à côté de Caen.
Alors, vraiment, c'est quelques kilomètres.
Merci d'être venu aujourd'hui. J'ai oublié quelque
Est-ce
chose.
Est-ce que je peux je vais juste finir cette émission par une bonne nouvelle, et on voulait l'annoncer dans ton émission.
Ah, c'est sympa.
Alex Massmedia vient d'entrer au catalogue du tourneur Nueva Onda. Donc voilà, on rentre dans une grande famille blues. Voilà.
Voilà, avec Malteen Milk notamment.
Avec Malteen Milk, avec Nina Hattal, avec les Papa Chubby et voilà, et plein d'autres.
Et plein d'autres, oui, parce qu'il y en a énormément. Voilà. Oui, bah bravo, félicitations.
Hein. Merci. On ne réalise pas encore.
Je crois que ça. Tu vas vite le réaliser.
Oui,
je l'apprends en même temps, hein, Marina ne l'avait pas dit avant. Tu vas avoir plein de dates en 2014, hein, c'est obligé. On a encore croisé dimanche dernier Johan de Nueva Onda. Bon, c'est toute une équipe qui s'occupe de façon, on va dire, très très dynamique.
Ouais, c'est effectivement la structure qui nous correspond.
The place to be.
Vraiment, voilà.
Alors bon vent à toi, Alex, et puis
merci.
À très bientôt.
À très bientôt.
Alex Massmedia en double plateau avec Nina Hattal le 22 novembre prochain à la salle Le Studio à Bretteville l'Orgueilleuse.
But my mama won't die, cause she loves me more and more.
desire. Stop seeing people dying, the family, friends, lovers. She survived by the only desire. Stop seeing people dying, the family, friends, lovers.
Voilà, donc c'était Alex Mass Media, le titre McQueen, extrait toujours de ce titre Soul Rain. On continue avec un nouvel extrait du disque du mois. C'est toujours Eric Bibb, Jericho Road, et on retrouve juste derrière Laurent Choubrac pour sa rubrique à propos de JJ Ken. She Got Mine, Eric Bibb. I got her love, she got mine. She got mine. Stone by stone, big solid foundation. Takes happy homes to make a happy nation. On the rock of ages, building strong and fine. I got her love, she got mine. She got mine. We got to raise these children in a righteous way. Spare the rod and teach them love every day. Turn off the TV set, read out loud. Voilà, extrait de Jericho Road, à mon sens, le meilleur ou l'un des meilleurs albums d'Eric Bibb. Ça va, Laurent ?
Oui, bonjour à toutes et à tous, ça va, j'ai un petit souci avec mon casque, voilà, c'est bon.
Ça faisait un petit moment déjà, mais
ouais, ça fait un moment que je suis pas venu. Ouais.
T-shirt blues sur scène, sweat blues sur scène, voilà, on est en plein dans la note. Là.
Bah oui, j'ai vu que tu allais en parler, donc j'ai trouvé ça dans mes archives.
Voilà, donc en plus, tu as la webcam qui est braquée sur toi. Blues sur scène n'aura pas accueilli JJ Cale, puis ça ne sera pas possible malheureusement. Parce
non, c'est un peu raté, non.
Et il n'était pas si âgé que ça, 74 ans, c'est ça ou
ouais. Ouais.
Il a lâché la rampe.
Il allait avoir 75 au mois de décembre.
Alors tu nous proposes un petit spécial JJ Cale, enfin un grand spécial JJ Cale, parce qu'il y a quoi, 30-40 années de discographie.
Ouais, donc je vais pas causer des masses, parce que c'est un monsieur qui parlait pas beaucoup et qui était pas vraiment dans les journaux à scandale et compagnie, donc il n'y avait pas forcément grand chose à dire. On va plutôt parler de sa musique. Donc c'est un monsieur qui s'appelait John Cale, en fait, de son vrai nom, et pour pas qu'on confonde avec le John Cale de la côte Est, il s'est appelé JJ Cale. Il est né donc le 5 décembre 38, enfin il était né en Oklahoma, décédé, on l'a dit, en juillet dernier. Et je propose qu'on mette un peu dans l'ambiance, si t'as calé le disque tout de suite.
Il est prêt à partir.
Pour se rappeler un peu, des fois que certains aient oublié ce que c'était, quoi. On y va ?
On y va.
Keep low and flow.
C'était Call Me The Breeze.
Oui, mais on a reconnu, parce que Call Me The Breeze, c'est le genre de titre qui a été maintes fois repris, je crois, Laurent.
Qui a été maintes fois repris, alors je me rappelle une version de Lynyrd Skynyrd, qui était avec plein de cuivre et tout.
Un peu moins soft que celle-là.
Un peu moins soft que celle-là. Il y en a une très très belle qui vient de sortir, qui est fidèle à l'original, mais avec son propre son, de John Mayer, sur le dernier album de John Mayer. Et c'est assez impressionnant, parce qu'on croirait entendre J.J. Cale qui chante. Et le solo de guitare, on a l'impression que c'est Clapton qui joue. Donc,
c'est vrai que c'est un nom qui allait forcément revenir à un moment donné dans ta biographie, Eric Clapton, J.J. Cale.
Voilà, donc on va en parler un petit peu tout à l'heure, là, parce que je vais essayer de prendre un petit peu quand même les choses chronologiquement. Dire deux, trois mots sur J.J. Cale. Donc, c'est un monsieur qui, dès l'âge de 17 ans, commence à jouer dans les clubs locaux de Tulsa. Et il monte son premier groupe qui s'intitule Johnny Cale and the Valentines. Donc, ça, je ne le savais pas, il a fallu quand même que j'aille rechercher. Il rencontre Leon Russell, avec qui il joue. Donc, Leon Russell, qui est pianiste, qui a notamment accompagné Joe Cocker à ses débuts dans Mad Dogs and Englishmen, qu'on retrouve sur le double live magnifique de Mad Dogs and Englishmen.
Et qui s'est longtemps occupé de Freddie King dans les années 70.
Notamment aussi, oui, bien sûr. Et vu le peu de succès que rencontre J.J. Cale, Leon Russell lui conseille d'aller à Los Angeles avec lui. Donc il fait un séjour de 64 à 69. Hein. Donc c'est quand même un monsieur qui a démarré très très tôt. Il travaille comme musicien de studio, ingénieur du son, accompagnateur de groupe. Il y produit quelques singles, dont une certaine phase B qui s'appelait After Midnight.
Ah oui.
Voilà, parce que tout a démarré un petit peu de là. Alors il a même joué dans un groupe qui s'appelait The Leather Coated Mind, qui était un album qui a produit des covers psychédéliques en 67. Et J.J. Cale le nommait, l'album c'était A Trip Down the Sunset Strip, voilà. Et c'était qualifié par J.J. Cale lui-même de terrible, mais pas, je pense, pas dans le bon sens du terme.
Oui, c'est-à-dire
terrible. En VO, voilà. Et donc en fait, il revient au bout d'un moment, il revient en Oklahoma, et ce qui va se passer surtout, c'est que un certain Eric Clapton reprend After Midnight.
Clapton, qui est, je crois, de 7 ans son cadet.
Hein, oui, alors je sais plus. Oui, parce que Clapton est. Oui,
il est en 45.
Oui, bah c'est ça, oui, t'as raison. Voilà, c'est oui, bravo. Mais c'est vrai, toi, t'es un style, tu calcules beaucoup plus vite que moi. Je suis un peu fatigué en plus. Et donc, ça va vraiment le lancer dans une carrière de songwriter. Donc il a écrit la plupart des titres de ses albums, mais là on va passer à un album. Donc il a sorti le premier album qui s'intitulait
Naturally,
merci. Et le deuxième album qui s'appelle Really sort en 72, donc la même année. Et là pour le coup, je vais pas vous proposer une compo de J.J. Cale, je vais vous proposer un autre morceau qui s'intitule Going Down.
Un truc de Don Nix, je crois.
Qui a été écrit par Don Nix, voilà. We'll be right back.
Voilà, I'm Going Down, là encore un titre, c'est marrant, on évoquait Freddie King tout à l'heure, il en a fait à son cheval de bataille aussi.
Ouais. Et on voit bien un peu, quand on entend la version de Jekyll, comment il est capable de transformer un peu tout ça. Il y avait quand même une sacrée alchimie dans ce qu'il faisait, parce que quand on essaye de faire du Jekyll, parce que ça paraît bien sûr très simple, il n'y a en général que trois accords, on est sur un rythme assez simple, voire simpliste comme ça, mais quand on essaye d'en faire, ça devient très compliqué.
Je pense pas que ce soit les notes qui soient difficiles à imiter, mais plutôt tous les espaces qu'il y a entre deux, quoi.
Voilà, complètement. Il y a une espèce d'épure comme ça qui est assez fantastique, qui a vraiment été sa marque de fabrique. Et voilà, qu'on retrouve tout au long de ses albums. Bon, même si moi je suis un peu moins fan des albums quand il a changé de maison de disque, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant, y compris dans son toucher de guitare et dans le quand même dans le velouté qu'il peut avoir, voilà, dans le son qu'il, ouais, a. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, quoi.
Il y a un artiste qui ne fait pas dans le J.J. Cale Revival forcément, mais qui lui a consacré un album tout récemment, c'est Richard Kuechly, un artiste suisse qui passe de temps en temps dans l'émission, ouais, et qui a fait un live en hommage à J.J. Cale, justement au moment de sa disparition. Et voilà, je trouve que c'est pas forcément un imitateur, c'est pas forcément dans cette démarche là qu'il intervient, mais il a compris le truc, quoi.
Ouais, et ça c'est pas facile, c'est quelque chose d'assez compliqué, quoi. Donc je reviens un peu sur l'histoire. Donc en fait il fait, donc sur le premier album dont on a entendu le morceau d'ouverture là tout à l'heure, il refait une version d'After Midnight, ouais. Ça sort sur le label Shelter à l'époque, dont Leon Russell est copropriétaire. Donc il se déplace encore en Californie, il s'y installe, puisqu'en fait il était en Californie depuis 1994 au moment de sa mort. Donc dans l'ordre, il a donc sorti Naturally, où on avait Call Me the Breeze, sur Really on vient d'écouter Going Down. Ensuite il sort en 1974 un album qui s'appelle Hockey. J'aimais bien les pochettes de Jekyll, elles sont restées un peu dans la...
Oui, il n'y avait jamais son visage, hein, contrairement à beaucoup.
Non, puisque la première fois qu'il apparaît sur un album, c'est sur le numéro 8, c'est ouais. dire. Hein. Donc ensuite, Hockey, je n'ai pas forcément passé de morceaux, mais surtout, on va passer un morceau du suivant, Troubadour. Bon, moi, je n'ai pas Troubadour, mais c'est extrait d'une compile d'un best-of de Jekyll.
Moi, j'avais ça en vinyle, comme pas mal de choses, et puis on ne peut pas tout racheter non plus.
Hein, ben non. C'est ça. Alors en fait, moi j'en ai racheté pas mal au moment de son décès, parce que je me suis aperçu que oui, c'est ça. Donc il m'en manquait pas mal en laser, et puis enfin en CD. Je me suis dit bon, c'était intéressant, et du coup je m'aperçois que j'en réécoute énormément, quoi. C'est vraiment une très bonne école. Donc sur cet album Troubadour, figure le morceau de J.J. Cale, bien sûr, hein, donc vous allez le reconnaître tout de suite.
Down.
Cocaine, version originale par JJ Kell. Et tout ça, c'est dans Sweet Home Chicago, numéro 924, avec Laurent Chourac.
Oui, voilà, donc un spécial JJ Kell. Je voudrais revenir un peu sur, sur son style, hein, qui est quand même, enfin bon, c'est vraiment un mélange de la musique américaine, country, rock, jazz, blues, quand on écoute toutes ses influences. Il y a pas mal de morceaux vraiment inspirés du jazz, alors pas le straight jazz qu'on peut connaître, mais voilà, on sent quand même toutes ces influences de la musique américaine. Et lui-même disait qu'en fait, son propre son, c'est qu'il n'arrivait pas du tout à imiter les gens qu'il écoutait, comme, alors il citait Chuck Berry, Scotty Moore, Clarence Gatchamouth Brown, Les Paul, Chet Atkins, etc. Enfin, tous ces gens-là. Et en fait, lui, il a fait un peu son truc à sa sauce. C'était quelqu'un qui était vraiment très fort dans le son. Il aimait bricoler les choses. Il avait d'ailleurs au départ des guitares complètement bricolées, avec 5 micros, enfin, avec des choses absolument incroyables.
Je crois qu'il avait son propre studio aussi.
Et il avait son propre studio. Il aimait bien attraper les choses. Et il y a un DVD dont je parlerai tout à l'heure qui est sorti au moment d'un album, qui est très très intéressant, où il explique que, enfin, les autres expliquent que voilà, ils enregistrent, lui il emmène les bandes chez lui, il bricole tout ça et il ressort. Les gens, même les ingé sons, disent mais comment il peut faire quoi. Enfin, il arrive vraiment à bricoler ses trucs. Et c'était aussi quelqu'un qui se considérait pas. Il disait qu'il jouait la guitare pour le plaisir, mais qu'il écrivait pour vivre, parce que il était un songwriter, quoi. Hein. Et c'est vrai que beaucoup de ses chansons ont pu être reprises, et on sait le succès que ça a fait. Le Cocaine, quand même, quand ça a été repris par Eric Clapton, ça a quand même cartonné dur, à tel point que plein de gens pensent que c'est un morceau d'Eric Clapton, d'ailleurs.
Ben oui. Il y a, et puis tout comme il y a plein de gens qui pensent que la chute de Sheriff est signé Bob Marley, quoi.
Enfin, tout à fait, hein, tout à fait. Enfin, Eric Clapton.
Eric Clapton. Clapton.
Oui, 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 oui. Non, non, non. Mais... non oui, que c'est signé Eric Clapton, mais que c'est pas de Marley.
Oui,
c'est
oui.
Pas Barack. Voilà, voilà. Ensuite, il sort un album, alors je suis un peu paumé dans les... On en est au 5, voilà, puisqu'en fait, après Troubadour, il sort un album 5, donc je vais pas... Alors, on va pas passer des morceaux de tous les albums, parce que sinon, ça ferait un petit peu long. Mais vient ensuite un album qui s'appelle Shades. Mm-hmm. Qui pour moi enfin pour moi c'est presque celui que je préfère, avec celui d'après. C'est-à-dire que moi, si j'avais à choisir, j'en prendrais deux.
Grasshopper aussi.
Grasshopper. Pour moi, c'est vraiment les deux disques que je préfère. Alors Shades, en plus, il a une pochette magnifique.
Ben oui, pour les fumeurs.
Pour les fumeurs ou ceux qui essayent d'arrêter de fumer, j'en sais rien. Ou voilà, c'est quand même inspiré du paquet Gitane. Ça, ouais. C'était quelque chose d'assez super. Moi, je trouve que c'est une véritable œuvre d'art. Je l'ai même exposé dans le mur d'une pièce chez moi. Je ne dirai pas laquelle. Et...
une pièce où on a le droit de fumer, peut-être.
Non, non, c'est interdit. Non, non, mais on peut observer, on peut rester longtemps assis à observer la pochette. Non, c'est vraiment une très très belle pochette, très très sympa. Je me rappelle que j'en avais même fait un pochoir que j'avais sur une valise sur laquelle il y avait mes pédales d'effet de guitariste. J'avais mis ça en pochoir, c'était très sympa. Et alors, la chanson qu'on va passer, ça s'appelle Mama Don't, et c'est des paroles assez rigolotes, puisqu'en fait, il dit maman ne veut pas qu'on joue de la basse. Maman veut pas qu'on aime pas la guitare, maman n'aime pas ceci, cela, mais on s'en fiche parce qu'on va quand même en faire. Et les instruments rentrent les uns après les autres. Alors pour info, ceux qui voudraient avoir une bonne traduction des paroles, Francis Cabrel a fait une version dans son dernier album de Mama Don't,
ah oui,
qui est très bien fichue.
Une version française ?
Une version française, mais c'est un excellent. Il fait des très très bonnes traductions, puisqu'il a fait un album de Dylan, sur des chansons de Dylan.
Donc il faudrait qu'on l'invite dans l'émission, Francis Cabrel.
Ouais, je viendrai volontiers interviewer, hein, y a pas de souci.
Ça pourrait être ça.
Voilà, parce que je suis quand même assez fan. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment pigé l'esprit de. Il a fait plein de d'adaptations comme ça, y compris de Creedence. Enfin bon, c'est vraiment très intéressant.
Francis, si tu nous écoutes. Hein.
Voilà, tu viens quand tu veux. Et donc, on va passer Mama Don't.
C'est parti.
Guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow, I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow, I play my bass anyhow. Mama don't allow no bass in this place. Hey, mama.
like mama don't lie. Gonna play my drums in the house. Mama don't lie, I'm gonna come on.
Jekyll.
Voilà, alors ça, ce qui arrive à jouer comme ça, qui arrive à faire un morceau qui envoie autant que ça, bon courage, parce que c'est vraiment du haut niveau, quoi.
Mais enfin, puis en plus, c'est le genre de choses, quand on démarre, ça démarre très très soft, tu l'as dit, les instruments arrivent les uns après les autres, c'est assez magique, quoi.
Ouais. Alors je voudrais parler un petit peu des musiciens avec qui il a joué. Alors je vais pas citer tout le monde, tellement il y a il a joué vraiment avec énormément de monde. Alors je prends là par exemple sur Shades, au niveau des batteurs, on trouve Russ Kunkel ou Jim Keltner, même des types que je connais absolument pas d'ailleurs pour certains. Bon, Jimmy Karsten qui était un batteur, il prenait beaucoup de musiciens de studio, des types avec qui il avait joué à l'époque à Tulsa.
Excuse-moi de te couper Laurent, juste annoncer un petit quelque chose, il y en a vraiment pour allez, une seconde.
On y va.